recherche ou quête du monde entier, bienvenue dans votre rodéo littéraire sur Radio Campus Paris 93.9 FM. C'est le temps des chouquettes et aujourd'hui on fête le retour du printemps et des beaux jours en compagnie de Constance Joly à l'occasion de la parution de son troisième roman aux éditions Flammarion, Reverdir. Reverdir, c'est le beau verbe titre que cette dernière a choisi de donner à ce nouveau livre. Reverdir comme à la belle saison, prendre le difficile car aussi âpre qu'abrupt risque de vivre. C'est le pari que fait la narratrice de ce roman alors que son mariage et sa vie de famille se délitent en même temps que se distord la mémoire de sa mère, malade d'Alzheimer. Constance Joly fait partie de ces écrivaines qui ont fleuri tardivement, comme elle aime à l'écrire, publiée à l'orée de ses 50 ans après des années à publier les livres des autres. Un miracle, énonce-t-elle, que cette publication, le miracle de se sentir pleinement et donc physiquement exister après des années, à se raboter pour convenir aux désirs des autres plutôt qu'à ses propres élans. Le miracle de se tenir bien droit dans sa joie. On a tort de considérer le malheur comme un bloc, il y a des éclats d'euphorie pure à l'intérieur, écrit Constance Joly. Alors rencontre avec une écrivaine en quête d'indocilité, ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Bonjour Constance Joly.
Bonjour Lucas.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le temps des chouquettes.
Merci à vous, merci de m'accueillir.
Alors là, je voulais débuter l'émission, comme je l'ai dit en introduction, en parlant de la manière dont vous êtes mise à écrire, et en particulier le moment de votre première publication, puisque l'écriture et la publication, elles sont arrivées tardivement dans votre vie, Constance Joly. Je l'ai dit, c'est à l'orée de vos 50 ans que va paraître votre premier roman, Le matin est un tigre, et vous avez donc fait partie de ces gens qui, comme vous l'énoncez, fleurissent tardivement.
Late bloomer.
Exactement. Comment l'écriture, elle a cheminé durant toutes ces années? Parce que, est-ce que avant l'instant de la publication, il y a eu quand même chez vous de l'écriture? Et surtout, comment elle a fini par advenir?
Alors, c'est toujours un peu mystérieux, la façon dont on finit par écrire soi-même. Moi, je me suis mise dans tôt dans l'ombre des auteurs. Comment elle a cheminé, peut-être depuis que je suis lectrice, c'est-à-dire depuis que je suis capable de lire. Enfin, moi, je suis enfant unique, donc c'était vraiment des compagnons, les livres. J'écrivais bien des petites choses quand j'étais petite, que je faisais lire d'ailleurs à ma mère. Mais vraiment, je n'avais pas de désir d'écrire conscient. J'avais vraiment, par contre, je nageais dans les mots des autres, et ça me semblait impossible de poser une première phrase comme ça et de continuer. Donc un jour, pourtant, ça a été possible, et je ne sais pas, ça a éclos dans l'ombre de moi-même, je ne sais pas comment.
Alors il y a une autre particularité de ce parcours d'écriture, c'est que votre premier roman, il s'est fait en grande partie dans le cadre de plusieurs ateliers d'écriture que vous avez suivis dans une école qui s'appelle Les Mots à Paris. Mmh. Cette manière-là d'avoir assisté à des ateliers d'écriture, qui est une pratique qui se répand de plus en plus ces dernières années, mais c'est un choix, une manière qui casse en grande partie l'imaginaire de l'écriture comme une pratique solitaire, guidée par l'inspiration, le travail strictement individuel. Comment vous les avez vécus, ces ateliers d'écriture? Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à en pousser la porte?
En fait, c'était pas du tout... je m'étais inscrite à un atelier d'écriture qui ne s'est jamais rempli, à ma grande déception. Et il y avait juste un horaire qui me convenait. C'était un atelier qui s'appelait « Comment faire une bonne histoire ». Je me suis dit « Mince, a priori, je sais, c'est mon métier ». Mais je me suis inscrite quand même et c'était extraordinaire. C'était l'atelier d'Arnaud Delalande. Et j'y allais pas dans le but d'écrire un roman. En fait, il se trouve que peu avant avait éclos cette première phrase qui a déroulé la pelote, « Le matin est un tigre », et que j'avais commencé à dérouler un peu, je sais plus, cette pelote. Donc j'avais quelques paragraphes. Et comme il fallait venir avec un petit début de texte dans cet atelier, j'avais lu ces petits paragraphes. Et les autres avaient aimé, mais beaucoup en fait. Et moi aussi j'avais aimé plein de trucs que les autres avaient écrits. Et du coup, Arnaud Delalande m'a posé les cinq questions qui sont pourtant au cœur de mon métier, que je pose tout le temps, qui étaient qui, quoi, quand, où, pourquoi. Je me suis dit, ouais, ok, ça vaut le coup de faire ça. Et je me suis aperçue que j'étais en train de développer une histoire, même si chez moi en fait l'histoire est pas très prime, pas tellement en fait, c'est pas j'écris pas des histoires, enfin c'est assez ténue, quoi, si, en termes de plot.
Et cette bascule-là, le moment où on s'autorise à écrire, est-ce que ça, il a vraiment fallu cet instant-là où vous avez, il y a des gens autour de vous
qui vous disent vraiment que la première ça leur plaît, C'était vraiment la première phrase. En fait, la bascule, pour moi, la bascule, il y avait une frontière entre écrire et ne pas écrire, c'était que, je ne sais pas comment vous dire ça, en fait, il y avait une autorisation de poser une première phrase et de continuer. Donc la première autorisation, c'est vraiment moi-même, c'est-à-dire que ça m'intéresse assez pour décider que ça vaut le coup d'être suivi. Ensuite, le regard des autres... bien sûr, c'est ultra stimulant et cet atelier a fait éclore d'ailleurs 4 textes. C'était assez exceptionnel sur 12 participants. Enfin, je veux dire, on a été 3 publiés, ce qui est un ratio assez dingue. mais l'autorisation, non, je pense que c'est vraiment par rapport à soi-même. Donc ça m'a encouragée. Le regard des autres m'a encouragée, mais ça n'a pas été déterminant.
Et la première approche avec l'éditeur, puisque vous avez eu une vie d'éditrice pendant de nombreuses années, là vous vous retrouvez à basculer de l'autre côté, ce premier roman il va être publié chez Flammarion comme le sera le deuxième et le troisième Reverdir. Comment on le vit quand on a été éditrice soi-même pendant autant d'années, d'être en face d'une autre éditrice qu'on ne connaît pas forcément et qui d'un coup vous fait vivre... voilà, cette espèce d'inversion des choses, comment on la vit ?
Mais on la vit de façon très naturelle parce qu'on se sent tous exactement aussi nus par rapport à l'écriture, qu'on soit auteur, éditeur, enfin qu'on soit auteur, qu'on soit éditeur ou pas éditeur, enfin je sais pas, pour moi c'était m'installer dans d'autres chaussures, enfin je sais pas comment dire ça, et c'était... alors bien sûr, il y avait des moments troublants parce que je connais le processus de travail avec un auteur. Et effectivement, il y avait des moments d'inception, comme ça, où je me retrouvais de l'autre côté. Mais ça a été très naturel, puisqu'en réalité, on est tous... rien ne nous prépare à l'écriture et à se trouver là auprès d'un éditeur, même le fait d'avoir travaillé comme éditeur soi-même.
Et qu'est-ce que... Une des choses aussi que je me suis demandé, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé en passant du côté autrice ? Que le fait d'être éditrice vous apportait pas forcément. Qu'est-ce que vous mettez dans ces deux pratiques ? Est-ce que vraiment vous y trouvez des échos, des liens qui vous paraissent évidents, ou il y a une distinction hyper nette que vous faites entre avoir été éditrice, être éditrice, et le moment où vous écrivez ?
Là, je... En fait, moi, j'ai pas parlé d'Alix. Alix Penant, en fait, il y a éditrice et puis il y a Alix Penant. Voilà. Non, vraiment, c'est-à-dire que là, du coup, moi, j'ai trouvé un interlocuteur. Et on peut aussi se sentir peut-être seul quand on est auteur avec un éditeur qui n'est pas votre éditeur sœur, comme on dirait d'une âme sœur, j'en sais rien. En tout cas, avec Alix, j'ai trouvé de l'écoute, une intelligence encore plus profonde du texte que celle que j'avais moi-même au moment où j'écrivais. Elle a reçu assez peu de pages. Au départ, je lui ai envoyé parce qu'on avait une amie en commun, ça c'est vrai. Mais c'était pas pour autant facile de franchir ce pas-là. Et elle a compris tout de suite ce que j'étais en train de faire beaucoup plus. C'est comme si elle voyait beaucoup plus loin que moi-même. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé une excellente éditrice.
Voilà. Et quand on a franchi ce palier-là du premier roman, comment on aborde l'écriture du deuxième ? Alors, le deuxième, votre deuxième roman, Over the Rainbow, avait notamment eu le prix Orange, donc avait eu aussi une visibilité médiatique, publique assez importante. Voilà, comment on passe à ce deuxième roman, d'autant plus quand le premier a été fait en partie avec cette espèce de rampe de lancement qui a pu être l'école des mots, où il y a quand même une phase à gravir.
Non, en fait, l'école des mots, malheureusement, enfin... Disons que ça s'est arrêté assez vite. D'ailleurs, on s'est senti assez vite orpheline. Arnaud Delalande, il pouvait ne pas nous faire des cours pendant non plus un an et demi, deux ans. C'était quand même assez réduit dans le temps. Donc, comme vous dites, c'était une petite rampe de lancement magnifique. Mais enfin, l'essentiel du roman, je l'ai écrit toute seule. Enfin, disons, voilà. Et en fait, c'était pas si difficile de passer au deuxième roman, puisque en réalité, je le portais depuis tellement longtemps. Je voulais tellement, en fait, écrire ce roman en premier et sans y arriver que il est né très vite après le premier. Et du coup, c'était assez simple. C'est plutôt maintenant, en fait, qu'il y a peut-être un effet un peu deuxième roman, où, comme vous dites, le Over the Rainbow, le second, donc après Le Matin est un tigre, a eu un bel écho, un beau succès. Du coup, il y a une petite attente, mais je ne parlerai pas de stress, parce que c'est quand même... Ça paraît banal et mièvre de dire ça, mais c'est vraiment de la joie pour moi, en fait.
Parmi toutes les écritures possibles dont vous auriez pu vous emparer, dès le premier livre et dans les deux autres qui suivent, il y a une grande part autobiographique. Le premier, on se le dit pour des raisons évidentes, puisqu'il était question de la maladie de votre fille. Et donc, voilà, il y avait cette écriture-là qui venait spontanément, mais ces éléments biographiques, autobiographiques forts, ils sont revenus dans le deuxième, ils reviennent encore dans Reverdir. Est-ce que ça s'est venu spontanément? Est-ce que ça a été lié à des auteurs, des autrices qui vous inspirent, qui ont aussi ce style
Ouais, je crois
d'écriture-là?
que c'est vrai qu'on écrit ce qu'on aime lire. Et c'est vrai que il y a ce terme-là de non-fiction, je crois. Enfin, comment on dit ça? C'est pas du documentaire. Enfin, disons que c'est. Je suis assez mal à l'aise avec les catégories. Mais moi, j'écris avec un matériau biographique déjà parce que j'ai pas d'imagination, en fait. Et c'est vrai que il y avait cette première phrase, mais il y avait aussi cette nécessité de parler de ce que j'avais traversé avec le père de ma fille aussi, même si j'ai transporté complètement l'histoire dans une espèce de fable un peu fantastique, hein, disons. Je suppose qu'on écrit les livres qu'on peut écrire, en fait. Peut-être pas ce qu'on voudrait écrire. Il se trouve que ce que je peux écrire, c'est mon magma intérieur, mais j'ai pas décidé d'écrire sur, par exemple, dans aucun de mes livres, je me suis pas dit, tiens, je vais mettre une maladie au milieu, donc la maladie psychique, la douleur psychique d'une adolescente dans le premier, le sida dans le second et l'Alzheimer dans le troisième, non, ça c'est... Mais je pense que j'écris à partir de mes douleurs, en fait, à partir de ce que je comprends pas, et voilà, mes enfants sont ultra déçus, hein. Ils me disent, quand est-ce que tu écris un roman, en fait, un vrai roman, avec genre une intrigue, mais je sais pas, peut-être jamais, hein.
Alors vous venez de le dire, il y a effectivement dans chacun de ces livres une maladie grave qui est au centre. Dans Reverdir, c'est la maladie d'Alzheimer dont est atteint votre mère. Et cette maladie, elle se développe en miroir de la vie sentimentale de la narratrice qui, en même temps qu'elle apprend l'annonce de la maladie de sa mère, voit son mariage partir. Un petit peu à volo pour utiliser un terme très, très anachronique, mais elle a plusieurs aventures sentimentales et c'est aussi un moment de remise en question de ses propres désirs. Et sur ce lien filial avec la mère et à la lumière de la maladie de cette dernière, vous avez une phrase sous forme de question qui me paraît assez centrale dans le livre, qui est celle-ci: Que devient mon corps si celui de ma mère disparaît? Qui apparaît dès les 30 premières pages. Cette question-là, qui est assez vertigineuse, comment elle vous vient? Et aussi, quand vous avez construit ce roman-là, comment elle est venue cette idée, au-delà du fait biographique, de vraiment mettre en miroir comme ça ces deux événements très importants et ces deux trajectoires?
Bah, c'est vrai qu'on est assez collé à la matière vive, à des éléments biographiques, et c'est ce que j'ai ressenti de façon intime que lorsque ma mère a commencé à perdre les pédales, à perdre la raison, enfin les mots, etc., j'ai moi-même commencé à chuter. Donc là, c'est vrai que je parle d'un jeu qui n'est plus, enfin, qui n'est plus la narratrice. La narratrice me ressemble beaucoup. Il y a évidemment de la fiction, mais c'est vrai que c'est une quête d'émancipation, en fait, ce texte-là. Mais pas seulement. Enfin, c'est comment détacher, en fait, sa propre forme dans le tissu indistinct du réel. Ma mère et moi, on a eu une relation extrêmement fusionnelle, en fait. Elle m'a voilà, donc j'ai eu la sensation que c'était la première note amoureuse et qu'elle était bestiale et qu'elle était très très sauvage et qu'elle a retenti, en fait, la déflagration de la maladie de ma mère a retenti sur ma propre vie amoureuse. Voilà, donc j'ai éprouvé le besoin d'écrire, en fait, cette espèce de vertige de deux existences comme intriquées l'une à l'autre et dont il faut arriver quand même à sortir de ce labyrinthe-là. Mais finalement, j'avais exploré ça aussi dans Le Matin est un tigre, c'est-à-dire en fait la transmission mère-fille. Il y a quelque chose de très viscéral dans cette question pour moi. Mais vous savez, en fait, parfois, on ne parle pas très bien de ce qu'on écrit parce que ça nous dépasse, en fait.
Alors, pour revenir à ce que vous écrivez et compléter ce que vous venez de dire, il y a une autre phrase aussi que prononce la narratrice qui rejoint cette question de l'émancipation qui court tout au long du livre. Elle dit « J'ai quitté mon mari et ma maison, je cherche ce droit, mon lieu d'être, je voudrais défaire en moi la docilité. » Puisque...
Alors, c'est important, la docilité pour moi, parce que ça vient du latin.
vous êtes très attentive dans le livre, ouais, à l'étymologie.
Et c'est un verbe dont que je ne citerai pas parce que j'aurais peur de faire des conneries, mais qui veut dire, en fait, c'est un verbe sur un mode passif. Je ne sais plus si c'est docilere ou c'est être conduit, en fait. Voilà. Et donc, j'ai opposé à ce être conduit un verbe dans le titre même du roman, reverdir, un verbe d'action. Et je pense que l'écriture, c'est déjà, en fait, une émancipation. Le geste même d'écrire, en fait, c'est déjà défaire la docilité, trouver sa voix. Alors, moi, ça peut être voix X, voix E. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est totalement l'enjeu, en réalité, de cette narratrice d'être active, en fait, de devenir sujet, d'être dans une action, voilà, de ne pas se laisser conduire, mais de conduire elle-même, sa vie.
Et cette émancipation, alors, elle passe par l'écriture énormément. Il y a aussi, vous le dites dans certaines pages, un retour vraiment de la puissance du désir, même physiquement. Il y a des pages où vous décrivez très bien les sensations physique qui traverse la narratrice. Cette dimension charnelle, est-ce qu'elle fait aussi partie de la construction de ce lieu d'être que vous décriviez juste avant ?
Oui, alors c'est vrai que il est question aussi vraiment d'être femme avec une sexualité de femme, avec une verticalité d'une présence au monde qui ne va pas de soi pour tout le monde. C'est-à-dire que y a ma mère s'efface dans cette maladie d'Alzheimer et moi je parle d'effacement aussi, l'effacement d'une enfant par rapport à deux parents très flamboyants, très verticaux, et de retrouver, c'est pour ça que l'analogie avec la plante, la nature est très, m'a semblé très importante. C'est-à-dire qu'il s'agit de se tenir, enfin voilà, de retrouver un terreau où pousser droit, et le désir. Alors il y a beaucoup de métaphores de feu en particulier, d'éléments, enfin de vent, donc je suis parfois une tornade incontrôlée, parfois un marécage, enfin le sol se dérobe sous moi, et le désir, c'est celui de se sentir traversé par la vie en réalité, et je vais l'apprendre, enfin la narratrice va l'apprendre, au contact véritablement, encore plus que d'un homme, mais de la sensation d'être au monde, de la terre, de la plante.
Alors il y a effectivement toutes ces métaphores dont vous parlez, qui sont très, très flamboyantes. En miroir de ça, il y a une citation que vous faites dans le livre, qui est une citation de Frida Kahlo, qu'une amie rapporte à la narratrice, qui est « Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. » Et dans ces trois mots-là, le rêve, le café, la poésie, Kahlo, moi j'avais le sentiment qu'elle résumait, disons, les images amoureuses de la plus triviale à la plus,
c'est merveilleux,
la plus absolue.
Je suis très contente que vous ayez retrouvé... Non, mais j'avais oublié que j'avais mis ce poème de Frida Kahlo. D'ailleurs, je signale le magnifique film « Tu mérites un amour » de Hafsa Herzi, Et le café, l'amour et la poésie, disons que je pense qu'on devrait tous et toutes y avoir droit. Enfin, c'est, voilà. Donc,
parce que justement, je trouve, par rapport à ce que vous dites juste avant, on a l'impression, en tout cas dans la grosse première partie et moitié du récit, que la narratrice, elle court énormément après le rêve amoureux, la poésie amoureuse, et justement le café qui, pour filer la métaphore, représenterait la partie plus triviale de l'amour et du désir amoureux, si tant est que le désir amoureux puisse être trivial. Et j'ai l'impression que le livre, c'est ce mouvement-là vers aussi l'acceptation d'une certaine trivialité de son désir et de, son, et de l'amour. Comment elle finit par y arriver à cette acceptation-là?
C'est génial de voir la façon dont les lecteurs s'emparent de ce que vous écrivez. Ce n'était pas une façon consciente de parler du désir, mais enfin, c'est génial de voir ce que vous en faites. Pour moi, c'est la première partie du roman, elle est vraiment guidée par le hasard, une forme de jeu de loi, un labyrinthe. C'est très boueux, en fait. C'est très inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. En réalité, la narratrice, c'est comme une Alice qui court derrière des lapins en se demandant pourquoi tu fais ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça s'inverse à la fin. Elle découvre en fait que si elle s'était intéressée davantage aux marguerites qu'aux lapins, pour reprendre Alice hein, dans sa clairière qui tresse des couronnes de pâquerettes, elle aurait peut-être échappé d'une autre manière à l'ennui, d'une certaine manière, puisque il s'agit aussi de ça, hein, c'est-à-dire d'un couple qui est pourtant heureux, mais avec une certaine solitude qui se développe à deux. Et voilà, donc je ne sais plus du tout quelle était la question de départ, mais bon.
Non, bah, écoutez, c'est pas...
C'est comme le roman, ça erre, ouais, ça prend des chemins, buissonnier.
On a peut-être tous les deux besoin d'une grande rasade de café.
Mais grave.
Pour se remettre l'esprit à l'endroit.
Ouais. Mais non, ça va, mais c'est bien de divaguer.
Ouais, tout à fait. Y a une autre référence, là on peut le dire, référence importante dans le livre qui aide aussi à la construction, puisque le livre est divisé en trois grandes parties.
Feuilles, fleurs, racines.
Voilà, qui sont pour partie inspirées d'un philosophe qui s'appelle Emanuele Coccia.
Ah, mais c'est pas en partie, c'est vraiment merci à Emanuele Coccia et sa vie des plantes.
Voilà, exactement.
Ouais, qui a donné un peu l'architecture de ce livre en forme d'herbier, d'une certaine manière. C'est vrai que ce livre, il a été particulièrement difficile à écrire dans la mesure où j'ai eu aucun recul sur les événements que je raconte, dans la mesure où j'étais en train de les vivre, en fait. Donc, c'est pas du tout comme Over the Rainbow, où j'ai mis 30 ans à pouvoir trouver le ton juste pour évoquer la figure de mon père. Là, non. Donc, il y avait quelque chose de... où je prenais tout ce qui venait, et comme j'ai lu le livre d'Emanuele Coccia en travaillant sur mon roman, il m'est apparu que... Et puis surtout, j'ai eu une expérience réelle de stage d'herboristerie qui m'a... Enfin, ça a l'air trivial comme ça, mais qui m'a un peu changé la vie, en fait. J'y allais pas du tout dans cet esprit-là, mais il se trouve que ça a fait... Il y a plusieurs choses qui ont fait écho en moi. Voilà, la façon de m'approcher de la terre pour de vrai, c'est-à-dire de cueillir des plantes, d'apprendre leur nom. Il y a quelque chose chez les plantes, enfin, on est les seuls animaux pensants, enfin, nous les hommes, habiter le monde pour chacun d'entre nous, ça va de soi plus ou moins. Pour nous, non, en fait. Et parfois, on s'égare à chercher une place. Hein, et la maladie de ma mère, en fait, la nudité qu'elle impose, c'est-à-dire que là, on perd tout. Ma mère perd tout, tout. C'était une grande traductrice, c'était une musicienne, c'était une grande professeure. Et je la vois se dévider de ce qui fait son monde et être à l'essentiel. Voilà, être à nu. Et du coup, il y a quelque chose comme ça, d'une présence d'être au monde qui est pas ce qu'on dit de façon péjorative des gens, une plante verte, mais au contraire, une essence absolument pure. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment, en fait, les gens, enfin, moi, c'est comme ça que je vis la maladie de ma mère, redeviennent à l'essentiel. C'est comme une distillation, et on n'est pas loin de ce qui m'a fascinée dans ce stage d'herboristerie, qui était la venue d'une femme qui a fait une distillation, la distillation de romarin, pour faire un hydrolat de romarin. Et bon, c'est pour moi l'essence même de l'être, comment habiter la chair du ciel. Mais c'est en... Voilà, c'est... Il y a plein de façons d'être fleur, hein, je dis, à un moment, je fais dire à la narratrice. Et quand on n'a pas le choix, en fait, comme ma mère, là, en ce moment, on habite le ciel d'une façon totalement innocente, comme on se laisse traverser, comme dit Emmanuel Ecuccia, par l'air qui nous traverse tous, la poule, les nuages, nous, un coquelicot, enfin, voilà. Donc, ma mère m'enseigne la façon d'être au monde par sa maladie, une nouvelle façon d'être au monde, peut-être plus essentielle.
On peut se quitter sur cette, toutes ces possibilités, pardon, de reverdir.
Merci, elles sont jolies, Lucas.
Ça vous va. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre Reverdir, votre troisième roman, qui est paru début avril aux éditions Flammarion, que vous pouvez évidemment retrouver dans toutes les librairies de France. Quant à nous, chère Chouquette, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. D'ici là, bonne lecture et à bientôt.
Si on savait comment se terminaient nos histoires d'amour, peut-être ne les vivrait-on pas. Peut-être, avant d'approcher son visage d'un autre visage, d'offrir sa bouche à une autre bouche, le moment le plus éloigné du monde de la destruction et de l'amertume, l'instant le plus étranger à la douleur, aux images d'un tas d'affaires jetées sur le trottoir, de trains pris dans un brouillard de larmes, ne céderions-nous pas à l'attraction, à la mécanique qui s'enclenche? Ne glisserions-nous pas dans le terrier du Wonderland? Car le Wonderland, c'est bien connu, est peuplé de sourires sans chat. On s'y noie dans ses propres larmes et l'on risque de s'y faire couper la tête à la fin. Alors, pourquoi les petites filles qui s'ennuient courent-elles à toute allure derrière un lapin blanc? Et pourquoi les femmes, qui savent pourtant de quel pays sans visage reviennent les petites filles désobéissantes, courent-elles aussi à toutes jambes vers des lapins frénétiques, aux yeux rouges et aux désirs obscurs? Pourquoi soudain n'est-il rien de plus important au monde que de suivre un lapin blanc, l'œil vissé sur sa montre à gousset? Qu'est-ce qui fait courir les femmes comme des possédées en zigzagant dans les clairières folles? Qu'est-ce qui les fait aller de travers? J'ai commencé à aller de travers, sérieusement je veux dire, lorsque ma mère a elle-même perdu la tête. Son Alzheimer et ma plongée ont coïncidé. Le parallèle est troublant. Mais pourquoi épouser la folie de sa mère, sa chute et son enfer? Je n'ai pas 8 ans et à mon âge, je devrais avoir saisi l'essentiel. Ma mère est vieille, démente et même, elle va mourir. Et pourtant, à mesure qu'elle a perdu les mots et ses souvenirs, je me suis égarée moi-même, de plus en plus loin, de plus en plus vite. Chacune, mère et fille, en même temps, avons progressivement quitté le monde stable sous nos pieds. Chacune, nous sommes enfoncés dans un territoire non cartographié. Chacune, en même temps, avons perdu nos coordonnées. Depuis un moment déjà, je me tenais dans un coin de ma vie, un peu comme ces oiseaux qui orientent déjà leur corps vers l'envol. Les ornithologues allemands ont nommé ce phénomène Zugenruhe, littéralement l'anxiété de migration. Pour l'étudier, ils ont trempé les pattes des oiseaux dans des pots de peinture et ils ont observé que le faucon cresserel ou l'oie cendrée arpente davantage la partie sud de leur cage, délaissant la partie nord. L'orientation guide, avant le grand voyage, l'inclinaison de leur corps. J'étais comme ces oiseaux, l'inclinaison de mon corps était tendue vers l'envol. Pour confondre l'anxiété de migration, il me suffisait d'ouvrir la cage. J'étais peut-être une oie. Mon histoire ressemble à un jeu de loi, un itinéraire enroulé sur lui-même, scandé d'événements récurrents, de raccourcis et de pièges. Peut-être suis-je bien passé par un pont, un puits, une auberge, un labyrinthe et la mort. La mort d'un ancien moi qui en a généré un nouveau. J'ai tout écouté. Loi est proche du verbe ouïr, entendre, et se retrouve dans la forme spiralée du jeu qui rappelle celle de l'oreille humaine. Dans ce jeu que la vie m'a contraint de jouer, je me suis fait révéler quelques secrets à l'oreille, ce qui m'a permis d'avancer plus vite sur le chemin. J'ai tenté de parcourir les cases de mon jeu, semées d'hommes et de chausse-trappes. Et j'ai tourné autour de cette spirale, à la recherche de la sortie du labyrinthe.